RTL Info.
David Sanchez.
Bonjour à tous. Un crédit d'impôt pour inciter à voter. L'idée émane du Centre Neuchâtelois. Le parti propose de récompenser les citoyens qui se rendent aux urnes par une somme qui reste à définir. Les éplatures font peau neuve à La Chaux-de-Fonds. L'aéroport régional se dote d'un terminal agrandi et flambant neuf. Il accueillera ses premiers passagers avec la reprise des vols commerciaux espérés pour l'été. Les six clubs anglais se retirent du projet privé de Super Ligue européenne. Ils ont cédé à la pression de leurs fans, des instances dirigeantes du football et aussi du gouvernement anglais. Mais ce projet n'est pas mort selon ses initiateurs. Enfin, le ciel va se couvrir cet après-midi. Des averses orageuses pourraient avoir lieu dans certaines régions. Les thermomètres devraient indiquer jusqu'à 16 degrés sur le littoral, 10 degrés vers 1000 mètres. Le centre neuchâtelois s'interroge sur la légitimité des élus. Lors des élections cantonales du week-end passé, le taux de participation n'a pas dépassé 32%, soit moins d'un citoyen sur trois. Un abstentionnisme qui, selon le parti, biaise la démocratie et remet en question la légitimité des élus. Dans ce contexte, le centre va mettre en route un projet de réforme pour inciter la population à se rendre aux urnes. L'idée n'est pas d'amender les abstentionnistes, mais de récompenser les personnes qui votent. Il s'agit de créer le cadre juridique qui institue un crédit d'impôt, par exemple de 5 francs, qui sera déduit en fin d'année. Freddy Rumeau, chargé de communication du centre.
Il y a déjà aujourd'hui un problème lié au fait qu'on ne rembourse pas le timbre à l'électeur qu'il doit utiliser pour voter. C'est peu de chose le timbre, hein, c'est pas 5 francs. Maintenant, 5 francs est donné à titre indicatif parce que s'il y a par exemple 10 élections et votations au cours de l'année, ça fait 50 francs. Ça ferait 50 francs qui seraient déduits de la facture d'impôt à la fin de l'année. Et donc ça n'implique même pas l'engagement d'un fonctionnaire. C'est quelques clics informatiques pour régler cette question. Donc ça génère aucun frais. Mais ça crée un encouragement. Maintenant, certains me disent, mais c'est rien, 5 francs. 5 francs multipliés par le nombre de participations, on pourra aller à 10 francs. Moi, je l'ai donné à titre indicatif, ce chiffre. Notre parti dit bien qu'on met l'idée sur la table. C'est au parti d'en débattre, puis ensuite de fixer les montants qui paraissent être suffisamment incitatifs.
Des propos recueillis par Sarah Massy. Prochaine échéance électorale le 9 mai, avec le second tour au Conseil d'État neuchâtelois. C'est une étape importante pour l'aéroport régional des Éplatures. L'infrastructure chaux-de-fonnière bénéficie d'un nouveau terminal. La rénovation de la tour de contrôle devrait suivre d'ici peu. Coût de l'investissement, 1,3 million de francs. Un montant financé par un prêt de la Confédération et du canton dans le cadre de la nouvelle politique régionale. Philippe Clapasson est le nouveau directeur des Éplatures depuis une année. Il se réjouit des nombreux avantages de ce nouveau terminal.
Le style est totalement nouveau, on a vraiment modernisé ce bâtiment. C'est un bâtiment qui datait du début du XXe siècle, qui a été agrandi au fil des années. Et là, on l'a vraiment modernisé du point de vue style et du point de vue espace. C'est assez sobre, c'est assez clair. Et puis, il n'y a plus de restaurant, mais par contre, il y a un espace pour les formalités douanières, il y a un espace pour attendre, que ce soit attendre son vol ou attendre ses clients pour les pilotes, et du confort amélioré. Avant, on se retrouvait dans une trentaine de mètres carrés pour faire toutes les formalités douanières, faire l'embarquement, et en défense, on se retrouvait à 10-15 personnes dans un tout petit espace. Donc, on avait besoin de plus de place. On a maintenant de la place pour tout le monde. Et puis, on a gardé la terrasse pour les visiteurs, ce qui était important pour nous aussi.
La chose qui change, c'est qu'il n'y a plus de restaurant aux Éplatures. Hein. C'est ce local en particulier qui a été changé pour le confort des voyageurs.
Exactement. Par contre, on a deux établissements juste à côté. Et ça suffit comme ça, je pense.
Philippe Clapasson, directeur de l'aéroport des Éplatures, au micro de Léonard Reichen. Prochaine étape envisagée, la construction de nouveaux hangars afin d'améliorer l'attractivité des Éplatures pour la clientèle privée et d'affaires. La pandémie n'a pas freiné les efforts de l'économie en faveur de l'environnement. Plus de 400 projets ont ainsi été soutenus par la Fondation Suisse pour le Climat, selon le rapport 2020 publié aujourd'hui. Il s'agit d'un record pour cette organisation créée en 2008, peu connue en Suisse romande. Actuellement, elle regroupe 23 entreprises qui ont décidé de mettre dans un pot commun leurs recettes liées à la redistribution de la taxe sur le CO2. Parmi les membres figurent le groupe Raiffeisen, Allianz ou encore Swiss Life. L'an dernier, quelques 5 millions de francs ont ainsi été reversés à des projets menés par des PME dans des domaines liés à la protection du climat. Une démarche que nous explique Vincent Eckert, directeur de la Fondation Suisse pour le Climat.
On le voit, les entreprises qui nous soutiennent sont des entreprises qui ont une vision écologique, une vision de la durabilité et réalisent qu'il s'agit plus de greenwashing, mais vraiment de résoudre un problème sociétal. Et qu'on a besoin de cette colonne vertébrale de l'économie des petites et moyennes entreprises pour résoudre ce problème. Donc, d'introduire ces fonds à cet endroit-là peut ressembler à une charité dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ces petites et moyennes entreprises qui vont développer l'innovation nécessaire pour permettre à toute l'économie de pouvoir résoudre les challenges de la transformation énergétique.
Cette démarche 100% privée doit ainsi être vue non pas comme une alternative, mais comme un complément au soutien étatique ou semi-public aux projets d'innovation. On retrouve Vincent Eckert.
C'est des innovations qui ont besoin de temps et qui ont besoin de fonds sur plusieurs périodes. Donc en fait, nous on est relativement tôt parce que nos possibilités de financement sont petites, mais elles sont particulièrement intéressantes parce que c'est des financements à fonds perdus. Dans le cas de Neustadt, il s'agit de fixer du CO2 dans du béton. Il a fallu développer le concept, ensuite il a fallu développer l'industrialisation, et tout ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc ces financements, ils ont lieu les uns après les autres. Ça peut être soit des financements du type InnoSuisse au début, qui sont plutôt dirigés à un échange recherche-économie, à des financements du type d'une autre qui sont particulièrement dirigés à l'économie, et ensuite par des fondations du type Venture Capital, qui permettent aux entreprises de développer le marché.
Notons que si la Fondation Suisse pour le Climat a enregistré des records d'activité l'an dernier, ses recettes ont un peu reculé. L'organisation est donc à la recherche de nouveaux partenaires, en particulier en Suisse romande. Les enquêtes sur les fausses alertes à la bombe dans le canton de Vaud progressent. Sur les 19 cas enregistrés depuis janvier, 4 ont été résolus, indique ce mercredi la police vaudoise dans un communiqué. Les personnes impliquées ont admis leur participation. Il s'agit de 2 femmes de 19 et 24 ans, ainsi que de 3 hommes âgés entre 20 et 21 ans. 3 d'entre eux ont été libérés cette semaine après presque un mois de détention. Les autres restent incarcérés. Ces 5 personnes ont été exclues de leur école. Rappelons qu'en justice, ces fausse alerte constitue un délit passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les CFF font quelques emplettes. Ils ont signé un contrat de 1,3 milliard de francs avec le fabricant de matériel roulant Stadler Rail. La commande concerne 60 trains duplex interrégiaux supplémentaires. 41 trains viendront donc remplacer des véhicules vieillissants, selon un communiqué des 2 acteurs diffusé aujourd'hui. À l'étranger, l'Union européenne veut réduire d'au moins 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les eurodéputés et les États de l'UE se sont mis d'accord aujourd'hui pour adopter cet objectif. L'accord sera formellement intégré dans la loi climat. Derek Chauvin, coupable d'homicide involontaire, et l'Amérique qui pousse un ouf de soulagement. La nuit dernière, ce policier blanc a été condamné pour le meurtre de l'afro-américain George Floyd. L'année dernière, il avait étouffé le quadragénaire sous son genou, une action filmée dont la vidéo avait mis le feu aux poudres dans une Amérique encore déchirée par la question raciale. Ce verdict sonne aujourd'hui comme un apaisement, les précisions de Vincent Jacquat.
La garde nationale était sur le pied de guerre aux abords du tribunal de Minneapolis et les commerçants avaient barricadé leurs vitrines. La tension était à son comble à l'approche de ce jugement qui était scruté dans tout le pays. Cette nuit, les 12 jurés d'origine ethnique diverse ont condamné Derek Chauvin à 12 ans et demi de prison. L'accusé est sorti menotté. Sa peine pourrait être alourdie si les circonstances aggravantes sont retenues. Dans un discours solennel, le président Biden a salué une décision de justice qui pourrait marquer un changement significatif. Sa vice-présidente Kamala Harris écrit son soulagement, même si ce jugement n'enlève pas la douleur. Les anciens présidents démocrates se sont aussi exprimés. Barack Obama a appelé à poursuivre le combat contre le racisme et les violences policières. La couleur de peau détermine encore bien trop souvent comment quelqu'un est traité dans presque toutes les sphères de la vie américaine. Ça, ce sont les mots de son prédécesseur Bill Clinton. Mais les témoignages les plus poignants sont ceux des proches de George Floyd. Sa compagne disait peu avant le verdict « Ce n'est pas juste pour Floyd, mais pour tout un mouvement contre les violences policières ».
La foule réunie à Minneapolis a accueilli le verdict avec des cris de joie. Plus d'un millier de personnes ont scandé le nom de George Floyd, le poing levé. Les célébrations se sont vite déplacées vers le sud de la ville, à l'endroit même où est mort celui qui est désormais une icône du combat contre le racisme. Le nombre d'exécutions capitales dans le monde continue de baisser, mais dans certains des 18 pays à conserver la peine de mort, il a au contraire augmenté. Et cela malgré les défis posés par la pandémie. C'est ce que souligne aujourd'hui Amnesty International dans son bilan annuel. À l'échelle mondiale, au moins 483 personnes ont été exécutées l'an dernier, ce qui représente une diminution de 26% par rapport à 2019. Ce bilan ne tient pas compte des chiffres des pays qui classent ces données parmi les secrets d'État ou pour lesquels seules des informations limitées sont disponibles.
RTN 12h26.
Sport. Le projet de Super League privée des principaux clubs du football européen a déjà du plomb dans l'aile. Il est marqué par un revirement spectaculaire. Les 6 clubs anglais qui s'étaient engagés dans cette voie se sont retirés. Ils ont manifestement cédé face à la Vox Populi et aux menaces des instances du football. Les précisions de Marcel Neunschwander.
Les consciences se sont réveillées et les esprits ont cogité tard dans la nuit. Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal et Chelsea font tous machine arrière. Ils ont annoncé leur retrait via les réseaux sociaux ou des communiqués. Nous avons écouté avec attention les réactions de nos fans, du gouvernement britannique et de nos principaux actionnaires, précise ainsi le communiqué de Manchester United. Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela, a tweeté Arsenal. Par la voix de son président, Daniel Levy, Tottenham a exprimé des regrets. Nous regrettons l'angoisse et le bouleversement causés par la proposition de Super League. Désormais, il ne reste que dans ce projet plus que 3 clubs espagnols et 3 italiens. Mais l'Inter Milan et l'Atlético Madrid évoqueraient aussi leur retrait. Bref, l'annonce de la création de cette Super League européenne à minuit pile durant la nuit de dimanche à lundi a fait l'effet d'une bombe. Elle se transforme aujourd'hui en pétard mouillé. Mais attention, l'organisation dissidente ne baisse pas les bras. Dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, elle dit vouloir simplement remodeler son projet, sans préciser comment, ni indiquer si ce sera en collaboration ou non avec l'UEFA, l'Union européenne de football.
Et ça devient de plus en plus compliqué puisque l'Atlético de Madrid a aussi annoncé son retrait en fin de matinée. Ces défections ne sont pas sans incidence ailleurs. À la Bourse de Milan, le titre de la Juventus, un des clubs instigateurs du projet, a baissé de 10% dès l'ouverture. Enfin, en cyclisme, Marc Hirschi et son coéquipier Tadej Pogacar n'ont pas pu prendre le départ de la Flèche Wallonne ce matin. 2 cas de Covid-19 ont été découverts au sein de sa formation, le Team Emirates. Le coureur italien Diego Ulissi et un membre de l'encadrement ont été contrôlés positifs hier à leur arrivée en Belgique. Et pourtant, tous deux ont été vaccinés. Dans un communiqué, l'équipe dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti précise également que ces deux personnes ont encore subi 2 tests rapides et un test PCR qui se sont tous révélés négatif.
On parlait de cyclisme, non ?
Ah, absolument.
Ah ouais, c'est les champions pour les tests. Mauvaise langue. Allez, je me mets une petite claque. Alors, côté température, puisqu'on est à la météo, 9 à 15 degrés aujourd'hui, avec peut-être des nuages qui vont débarquer et déverser quelques gouttes sur notre région. Demain, normalement, les températures vont augmenter, 12 à 15 degrés. Une légère petite bise qui va commencer à faire le ménage pour la journée de vendredi. Vendredi, une très belle journée sans pluie, 14 à 15 degrés. La bise devrait nous quitter dès samedi et là, les températures devraient frôler les 20 degrés.